Bonjour à tous et bienvenue sur Eau de Radio, la radio des Hautes-Garonne 91.3 pour l'émission hebdomadaire des jeunes reporters européens. Aujourd'hui, c'est moi qui vais animer et non pas David, accompagné de Richard.
Salut, salut.
Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour l'émission ?
Alors aujourd'hui, autour de la table, on a pas mal de beau monde. On a en effet Guillaume qui est présent avec ses actualités européennes. Nous avons également Emeline qui est là pour assurer la chronique Voyage de foi.
Salut.
Héloïse, toujours présente pour nous parler de street art cette semaine. Claire qui est venue avec un jeu de blind test, moi-même, venu vous parler d'une émission de télé belge, et puis également Yann, l'inénarrable Yann, présent pour le jeu de Claire.
Bonjour, bonjour à tous, vous allez bien ?
Oui,
plutôt bien.
Salut.
Et sans plus tarder, on va commencer par toi Guillaume avec les actualités européennes, jingle.
Bienvenue à tous dans cette troisième chronique d'actualité européenne de 2018. Que se passe-t-il en Europe en ce moment ? Je vous fais le topo. Et je commence cette chronique par parler d'un pays que je n'ai pas encore traité d'un point de vue politique. Je veux parler de l'Autriche. Depuis le 16 décembre, ce pays est co-géré par les conservateurs à l'extrême droite autrichienne du Parti de la Liberté. Très concrètement, l'extrême droite gère désormais en Autriche les affaires étrangères, à l'exception notoire des affaires européennes qui restent de la compétence du chef de gouvernement, le ministère de l'Intérieur et aussi la santé, les affaires sociales et les transports. S'il est un peu tôt pour faire un bilan de leurs réalisations concrètes, on peut au moins lister les principaux points de l'accord de gouvernement, prévoyant notamment le retour à la journée de 12 heures de travail, la baisse des allocations délivrées aux réfugiés, la réduction drastique de l'immigration et aussi, un peu plus insolite, la mise en avant du droit de fumer, le gouvernement estimant que la cigarette est un symbole de liberté. Et oui, en Autriche, vous pouvez fumer dans les bars et peut-être bientôt ailleurs, suivant ce que fait le gouvernement. Mais si je parle de ce gouvernement autrichien maintenant, c'est pour relever son premier grand scandale. En effet, il a été découvert il y a 2 semaines qu'un haut membre du parti d'extrême droite d'Autriche, également conseiller régional, avait publié en 1997 un livre de chants faisant l'apologie du Troisième Reich. L'un de ces chants contenant notamment la strophe suivante « Mettez les gaz, vieux germain, on peut arriver au 7e million ». Une allusion aux 6 millions de juifs assassinés sous le Troisième Reich, notamment dans les chambres à gaz. Évidemment, cette affaire a suscité une vague d'indignation dans le pays et a conduit cet élu, Udo Landbauer, à la démission. Cette navrante histoire repose donc la question de la capacité de l'extrême droite à exercer le pouvoir et surtout de son rapport vis-à-vis du passé. Pour rappel, le Parti pour la liberté d'Autriche ayant été fondé en 1955 par d'anciens SS. Sans transition, je passe maintenant au reste de l'actualité européenne. Anniversaire, le 7 février dernier, c'était les 26 ans de la signature du traité de Maastricht. Pour rappel, ce traité fut donc signé le 7 février 1992 à Maastricht, aux Pays-Bas, par les États membres de l'Union européenne qui étaient alors au nombre de 12. Très sommairement, je rappelle les apports qu'a apporté ce traité très important dans l'histoire de la construction européenne. Cela couvre 2 domaines, la citoyenneté européenne et le renforcement du Parlement européen. Concernant la citoyenneté européenne, ce traité offre la possibilité à tous les citoyens européens de voter aux élections municipales et européennes dans n'importe quel pays, offre un droit de pétition citoyenne à déposer au Parlement européen et permet la libre circulation et la possibilité de résider librement dans toute l'Union européenne. Concernant le Parlement européen maintenant, ce traité lui donne un droit de veto sur les propositions de la Commission européenne et prévoit que les membres de la Commission soient soumis à un vote d'approbation par le Parlement européen. Élections européennes, le projet de liste transnationale rejeté par un vote du Parlement européen. C'était une des propositions du président Emmanuel Macron en France, proposer que 27 députés européens soient élus au moyen de listes transnationales qui seraient donc les mêmes, avec les mêmes noms dans tous les pays, et qui comprendraient donc toutes les nationalités des États membres. De cette manière, les gens ne voteraient plus pour des considérations purement nationales, mais pleinement européennes. Si la Commission des affaires constitutionnelles du Parlement européen a approuvé cette idée avec un vote favorable très net le 23 janvier dernier, ce n'est pas le cas du Parlement européen lui-même qui a rejeté cette idée par 368 voix contre 274 le 7 février. La droite du Parti populaire européen, l'extrême droite européenne, ayant voté très majoritairement contre. Si ce rejet est décevant, au moins cette idée continue à faire son chemin dans l'esprit des Européens. Et enfin, agenda culturel et découverte en Europe, aujourd'hui l'Ukraine. Et en cette veille de Saint-Valentin, nous partons à Klevan découvrir le magnifique tunnel de l'amour. Ce tunnel est une ancienne ligne de chemin de fer désaffectée, où une végétation dense forme un passage à travers la forêt. C'est vraiment très beau. Et chaque année, c'est des centaines de couples et des touristes qui s'y rendent pour des promenades romantiques, des voyages de noces, et bien sûr des déclarations. Donc, si une personne vous plaît et que vous ne savez pas trop comment lui dire, proposez-lui de voyager à Klevan en Ukraine. Richard, je n'en ai pas envie, mais je te rends la parole quand même.
Merci Guillaume, ça fait toujours plaisir un petit mot comme ça. Je donne maintenant la parole à Emeline pour la chronique Voyage Voyage. Voyage Voyage.
La fameuse vague de froid dont on entend parler partout depuis la semaine dernière m'a donné envie d'évoquer ici un autre épisode glacial de ma vie. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien de ce que vous faisiez juste après le nouvel an 2017. Ne me dites pas décuver, hein, entre gens bien, on n'est pas là pour parler de ça. Mais c'est à ce moment-là qu'ont été enregistrées les températures les plus froides qu'on n'avait pas vues depuis un moment, un peu partout en Europe. Donc, quand on vit en Pologne depuis quelques mois, dans une maison avec une chaudière en panne, par moins 15 dehors et qu'on voit des stalactites depuis sa fenêtre, on se dit que c'est le parfait timing pour aller encore plus au nord, bien sûr. J'ai donc pris quelques jours pour monter découvrir la Lituanie, l'un des trois États que l'on appelle un peu à tort et à travers les États baltes. C'est celui le plus au sud des trois, joliment coincé entre un bout de mer, la Biélorussie, la Pologne et la Russie, oui oui, puisque c'est juste là que se trouve l'enclave de Kaliningrad. Alors après un long trajet en bus de nuit qui nous a fait parvenir à Vilnius, on a découvert une capitale à taille humaine. Très très humaine. On avait découpé un peu les activités, visite de cette partie de la ville le matin, de celle-ci l'après-midi, le lendemain celle-là. Et puis on s'est promené un peu le premier matin et à midi, en regardant sur la carte, on s'est rendu compte qu'on avait déjà fait tout le tour de la vieille ville, emmurée avec ses différentes portes qui donnent sur un grand boulevard. Alors elle est petite cette ville, mais elle est belle et encore plus resplendissante sous la neige. Les doigts piquent avec le froid, mais chaque petite rue abrite une surprise, chaque place un monument. Il faut voir les églises baroques, comme Saint-Casimir, la toute rose, le château des ducs de Lituanie, avec sa tour octogonale qui surplombe la ville, les tables d'échecs qui attendent l'été pour être utilisées à nouveau dans les parcs. La rue Literatu, la rue des gens de lettres, c'est l'ancienne rue des marchands de livres, rend hommage aux écrivains avec des incrustations un peu surprenantes dans les murs, œuvres d'art individuelles qu'on peut passer des heures à regarder en arpentant la rue. Incontournable également, le quartier d'Ujupis, jumelé à Montmartre, un nid d'artistes qui ont fondé leur propre république, la République d'Ujupis donc, avec ses jours fériés, sa constitution, son hymne, son tampon sur le passeport, délivré certains jours de l'année. C'est plutôt cool, donc si vous avez l'occasion d'y aller, essayez de vous faire tamponner votre passeport.
C'est quel jour ?
Mais je crois que c'est en avril, je me demande si c'est pas le 1er avril.
Ah d'accord, ok, bon.
Donc en janvier ça ne marchait pas, dommage. On sent bien que les rues sont loufoques dans ce pan de la ville, mais elles commencent un peu à s'embourgeoiser. Mais c'est sympa de s'y promener. Le lendemain, le ventre plein des gaufres maison de l'auberge de jeunesse, on grimpe dans un bus absolument bondé pour Trakai, à 30 minutes de là. La ville s'étend entre les lacs. Les lacs, partout, et puis des arbres, de la neige, et puis encore des lacs entre les arbres. La glace commence à prendre les barques peintes dans ses filets. À Trakai, ce sont les maisons en bois aussi qui attirent le regard, alors qu'on emprunte la rue principale qui mène de la gare routière au magnifique château, que vous avez peut-être déjà vu sur des photos dans les magazines Géo, 360, etc. Les maisons typiques d'ici, bleues, vertes, jaunes, sont celles d'influence karaïte. C'est une branche du judaïsme typique de Trakai. Alors je trouve ça assez spécifique, mais je l'ai découvert juste pour l'écriture de cette chronique, mais je trouvais ça intéressant. On doit aussi aux Karaïm, donc, les kibinai. Ce sont des chaussons fourrés à la viande et aux oignons, à déguster au chaud avec une bière et une soupe, avant de traverser le long pont qui mène au château, planté au milieu d'un grand lac. Flâner pour donner à manger aux cygnes sur la rive, regarder les bonnets à vendre dans les cabanons à souvenirs, et puis visiter ce château médiéval, donc, magnifique, qui abrite des collections un peu fourre-tout sur toutes les époques, avec quelques mannequins étrangement habillés, et surtout aucune description pour savoir à quoi on a affaire. En sortant, on se dit qu'on était pas mal à boire notre soupe au chaud et qu'on aimerait bien savoir combien il fait dehors, parce qu'il en met du temps à arriver ce bus de retour. Finalement, on rentre à bon port. Un dernier tour de nuit dans un pub et puis dans les rues enneigées avant de se préparer pour le départ du lendemain. On enchaîne avec un train pour Kaunas, une ville plus à l'ouest du pays avec une immense gare communiste qui nous recrache sur le bord d'une immense avenue. Et là, je ne sais même plus si ce dont je me souviens est réel ou si c'est l'effet du blizzard, car à ce moment-là, la tempête s'installe et il fait moins 20. Résultat des courses, j'ai un souvenir très flou et très blanc de Kaunas, mais impérissable. Et le goût du chocolat chaud reste sur ma langue, comme ce bruit qui reste dans mes oreilles, celui du chauffage du centre commercial dans lequel on a attendu notre énième bus pendant des heures. On allait à Gdansk, la magnifique, cette fois. Mais ça, c'est une autre histoire, une histoire de neige sur la mer.
Eh bien, merci Emeline pour ce beau voyage. Il me tarde que tu nous racontes Gdansk. Alors, personnellement, tu m'as convaincue à partir du moment où tu as parlé des kirinai, ces petits trucs à manger, c'est ça ?
C'est très, très bon.
Les chaussons à la viande, voilà. Bon, ben, je sais où je vais aller cet été. Et ça me rappelle aussi Bratislava, cette autre capitale à taille humaine dont on avait parlé ici. Et sans plus tarder, on continue de voyager avec Héloïse qui va nous parler de street art. Et Héloïse, avant de commencer, si tu veux remettre ton micro correctement, n'hésite pas parce qu'il vaut mieux être à l'aise quand même.
Oui. Eh bien, j'avoue que je fais preuve de souplesse aujourd'hui pour être face à ce micro. Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve sur les ondes pour une chronique artistique. Et oui, cette semaine, comme vous l'aurez deviné, je vous entraîne à la découverte du street art en Europe. Quand on parle street art, on pense graffiti. Le graphe est, à mon sens, le courant artistique que les historiens futurs retiendront de notre époque. Le graffiti émergeait au Royaume-Uni dans les années 60, d'abord considéré comme un art mineur, mais surtout comme du vandalisme de l'espace urbain. Il a néanmoins aujourd'hui acquis ses lettres de noblesse, puisqu'il n'est pas rare de trouver des œuvres de street artistes dans les galeries d'art. Cette discipline possède une véritable philosophie. Le graffiti, c'est d'abord une exposition à ciel ouvert, puisqu'elle est visible dans la rue, par tous et gratuitement. L'artiste ne signe jamais son œuvre de son propre nom, mais par une signature très discrète. Cet anonymat permet de laisser place à l'œuvre plutôt qu'à la renommée de l'artiste lui-même. Cela permet aussi de contourner la censure, car bien souvent, ces peintures urbaines cachent un double sens, une critique de notre société. Enfin, ce sont des œuvres éphémères qui évoluent au fil du temps, au risque de disparaître, ce qui incite le spectateur à avoir un autre regard sur son environnement pour le préserver et faire perdurer les œuvres. Allez, rentrons dans le vif du sujet et partons pour visiter le top 3 des villes européennes, rapport au street art. Pour ce faire, je vais avoir besoin de l'aide des autres JRE pour trouver le nom des villes que nous allons découvrir. Alors les amis, si je vous parle de ces petites fiches sur lesquelles nous notions nos révisions lorsque nous faisions nos études, vous me dites fiches ?
Bristol.
Oui, et oui, c'est par la ville de Bristol au Royaume-Uni que nous démarrons notre tournée. Berceau du street art et du graffiti, Bristol, c'est la ville d'origine du plus célèbre des graffeurs, Banksy. Et je suis sûre que vous connaissez tous et toutes au moins l'une de ses réalisations, comme celle où l'on voit une petite fille vêtue d'une robe rose en train de fouiller un militaire. Mais résumer Bristol à Banksy ne serait pas faire justice à la diversité d'une scène street art locale, qui ne manque pas d'imagination pour s'y approprier les rues. À l'image de Inky et ses œuvres colorées représentant des femmes aux cheveux très longs et fleuris. Le tout sur un fond de style art déco à la Mucha, ce célèbre artiste des années 20. Bien, changeons de pays et de ville. Maintenant, les amis, si je vous parle de cette eau que nos grands-mères utilisent pour se parfumer, vous me répondez eau de...
Cologne.
Oui, effectivement. Eau de rose, pourquoi pas, eau de vie.
C'est
aussi
la mamie. Là, ta mamie apporte de l'eau de vie.
Je sais pas, faudrait que je lui demande. Donc oui, c'est bien Cologne en Allemagne, surnommée la Mecque européenne du street art. En effet, vous trouverez de tout et sur tous les supports dans les rues de Cologne, des fresques murales au pochoir en passant par les détournements de mobiliers urbains. Et c'est la création d'un festival, le Citylex, lancé en 2011, qui a permis de donner sa légitimité au street art à l'international. Entre fresques murales, conférences, rencontres et expositions, le festival a pu montrer la grande richesse de la culture urbaine. L'artiste que je retiens de Cologne est Nina Osmer. Elle utilise la technique du pochoir, ce qui lui permet de réaliser des portraits d'un seul trait noir, comme si le crayon sur la feuille ne s'était jamais levé. Ce qui nous donne des lignes qui s'entremêlent afin de former un visage. J'ai particulièrement aimé le portrait de cette femme au dreadlocks rose dessiné dans un style comics. Mais je ne peux pas quitter l'Allemagne sans vous parler de la chute du mur de Berlin, car l'émergence du graffiti est intimement liée à cet épisode de l'histoire. Souvenez-vous de la chute du mur en 1989, de tous ces bouts de murs colorés de graffiti comme un désir ardent de liberté et une résistance à la fois pacifique et artistique. Pour terminer, revenons chez nous en France. Et cette fois-ci, si je vous dis Pastis et Marcel Pagnol, vous me dites...
Poitiers.
Poitiers, oui, c'est ça. Non, c'est Marseille, désolé Richard. Et ce n'est pas pour rien que je vous parle de Marseille, car en 2013, cette ville a été élue capitale européenne de la culture. Si l'art de la rue a vraiment décollé dans les années 80 aux portes de la cité phocéenne, celui-ci a longtemps été réprimé par les autorités. Mais ce sont des initiatives récentes qui ont permis ce changement, à l'image de l'atelier Juxtapose qui ouvre les portes de certaines rues aux graffeurs et graffeuses talentueux, pour qu'ils puissent exprimer leur art de manière légale. Il suffit donc de se balader dans les rues du cours Julien pour apprécier le joyeux chaos artistique et coloré qui s'étale le long des murs. On retiendra le mystérieux Holo et ses poulpes colorées qui embellissent la cité phocéenne à leur manière. En somme, l'art est partout, dans nos rues comme dans nos quartiers, mais visible seulement pour ceux et celles qui savent y regarder de plus près. Sur ce, je vous dis au revoir et peut-être à plus tard pour vous reparler d'art. Et c'est avec brio que je repasse le micro à l'intrépide Ingrid.
Oh, merci, intrépide, ça me fait plaisir. Ben, merci beaucoup Héloïse pour ta chronique artistique et j'en profite pour préciser que contrairement au street art qui est éphémère, vous pouvez réécouter notre émission ce soir à 18h ou un podcast sur le site de la Maison de l'Europe de Bordeaux. Sans transition, on continue avec le sujet préféré de Richard, striptease.
«
Donc bonjour à tous, c'est un retour en musique que je vous propose aujourd'hui, après 2 mois sans passage à la radio, où visiblement j'ai fort manqué à Guillaume, puisqu'il n'a cessé de parler de moi pendant mon absence. Une obsession pour moi qui cache une histoire d'amour tragique, pathétique, touchante, navrante, mais ô combien humaine. Ce genre de romance qui m'a rappelé, non sans raison, mon émission de télévision préférée, dont le générique était en train de passer tout à l'heure. J'imagine que certains d'entre vous ont reconnu le titre Batunambe de l'orchestre Congo-Belge, bravo les mecs, mais j'imagine surtout qu'une plus grande majorité d'entre vous aura sans doute reconnu le générique de feu l'émission de télévision Striptease. Alors Striptease, c'est quoi? Et surtout, pourquoi vous parlez d'une émission qui passait sur France 3 dans une chronique radio qui se veut européenne? C'est là qu'est toute l'astuce de cette chronique, qui parle pour une fois de quelque chose de purement francophone, tout en restant une œuvre de culture européenne, puisque Striptease est à la base une émission belge. Diffusée sur la RTBF1, aussi connue sous le nom de La Une, chez nos cousins belges entre 1985 et 2002, l'émission s'exporte en France de 1992 à 2012. L'émission est revenue récemment dans le paysage médiatique francophone, car un film estampillé Striptease est actuellement dans les salles obscures, ni juge, ni soumise. Je reviendrai en fin de chronique vous parler de ce film plus en détail. Alors Striptease, c'est quoi? Si je devais choisir un seul mot pour vous décrire cette émission, je dirais simplement OVNI télévisuel. On s'en fait deux. Mais cela ne nous avance pas. Imaginez simplement un mélange entre un documentaire de la télé-réalité un peu à la tellement vrai, quelques sketchs de Groland, le tout enrobé dans un nappage d'humanité et de moments vrais. On a donc une caméra qui suit des personnes ordinaires, mais tout en restant très originales, avec à la fois leurs emmerdes, leurs moments touchants, leurs situations atypiques. Sans aucune parole, aucun son rajouté en post-production, aucun effet de montage sensationnalisant. Ici, pas de blonde peroxydée à la poitrine aussi énorme que le vide entre ses oreilles. On retrouve là des gens de tous les jours, des personnes que tu peux croiser en prenant le bus, en marchant dans la rue ou en allant dans des bistrots PMU. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est parfois dans ce genre d'établissement que commençaient les enquêtes pour trouver des sujets d'émission. Donc imaginez-vous une émission qui peut se résumer à son slogan. Striptease, une émission qui vous déshabille. Une émission qui met des gens à nu, portant un regard rempli d'humanité. D'ailleurs, malgré toutes les bonnes intentions déclarées par les auteurs de cette émission, qui passent leur temps à le répéter, l'émission est critiquée, taxée de voyeurisme, de divertissement trash. C'est en effet en 2012 qu'arrive l'émission de trop, nommée « Cherche Bergère désespérément ». Et mon Dieu, ce que cet épisode est dur. Je sais pas si autour de vous vous en souvenez, mais cette émission avait provoqué un mini-buzz à l'époque où elle était diffusée. Ça vous dit quelque chose?
C'est quoi? C'est une histoire d'un quelqu'un qui rencontre sur un catalogue Non, oui. C'est pas ça.
C'est à peu près ça, Ingrid. Bien vu. Alors en fait, dans cet épisode, on a une famille de bergers du nord de la France qui reçoit par l'intermédiaire d'une entremetteuse Roxana, belle roumaine, qui ne parle pas un mot de français. C'est ça aussi l'Europe. S'ensuit alors une émission des plus dures à regarder tant le taux de malaise est élevé. La famille n'est pas spécialement rassurante, à commencer par son mari avec beaucoup de guillemets, qui ressemble à Danny Boone avec des oreilles décollées et un grand sourire niais et qui semble très limité intellectuellement. En bref, cet épisode de 50 minutes, c'est malaise, gros malaise, c'est très gênant de regarder, oh mon Dieu, brûler mes yeux, c'est insoutenable, et tout autre genre de réaction similaire. Un épisode qui provoquait un scandale au point de déprogrammer l'émission. L'émission ne produit plus d'épisodes maintenant, mais depuis quelques temps, les épisodes sont mis en ligne sur YouTube via la chaîne de l'émission Striptease Officiel. Donc, quels épisodes je vais vous conseiller en express de parler avant d'aborder le film? Premièrement, je peux vous conseiller le classique Le perroquet et la soucoupe, qui raconte la vie d'une mère et de son fils, dont le dernier construit une soucoupe volante en bois dans son jardin afin de partir dans l'espace à l'automne prochain. La médecine est un art, un épisode très touchant, je trouve, qui se concentre sur un docteur du quartier de Barbès à Paris, très à l'écoute de ses patients, en majorité toxicomanes. Une bite n'a pas d'œil, une émission tournée dans les années 90 a montré à toutes les personnes négationnistes du harcèlement de rue, attention c'est très malaisant, et enfin mon préféré, Comique, qui nous montre deux comiques en devenir à qui il ne manque que le talent. Ils essaient et se loupent à chaque fois. Ouais, c'est assez horrible. Parlons maintenant du film, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec vous? J'ai fait le calcul. En prison, ça coûte 150 euros par jour. C'est une fortune. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous mouriez tout de suite.
Sa maman, ma grand-mère et le grand-père de mon père, c'est des sœurs et frères.
Oui, mais attendez, vous imaginez un peu? La consanguinité, c'est connu depuis toujours. Ça fait des siècles qu'on sait ça.
On en apprend tous les jours.
Voilà, n'oubliez pas les enfants que l'inceste est une mauvaise chose, comme nous le rappelle judicieusement ce film. Un film attendu par une communauté de personnes restant fidèles à cette émission, dont la personne à la radio en ce moment même. Un film qui se nomme Ni juge ni soumise, actuellement en salle, qui suit le quotidien d'une juge d'instruction bruxelloise dans les histoires quotidiennes qu'un métier comme le sien implique. Le personnage du juge, haut en couleur et n'ayant pas la langue dans son livre de code pénal, est déjà connu de l'émission, puisqu'elle est déjà apparue deux fois parmi les 900 épisodes de Striptease. Un film déjà récompensé au Festival international du film de San Sebastian, qui, pour l'anecdote, a fait se questionner les journalistes locaux qui ne savaient pas si jamais il s'agissait de fiction ou de réalité. Un beau résumé de cette émission, qui possède ses moments de grâce toujours touchants. Il s'agit à titre personnel de mon émission de télévision préférée et je la trouve purement fascinante. Chers auditeurs, personne autour de cette table, Philippe en régie, en train de mourir à cause d'un rhume, je ne saurais jamais assez vous conseiller de vous jeter dans cette émission. Et maintenant, je vous propose un petit jeu, les copains, animé par la pétillante Claire.
Bonjour à tous.
Bonjour. Salut Claire.
Ah, j'ai cru pendant une seconde que vous n'alliez pas me répondre. Donc aujourd'hui, moi, je vous propose de jouer un petit jeu. Je vais vous passer quelques extraits de bandes-annonces de films européens. Vous allez devoir découvrir la nationalité du film si vous le pouvez. Et aussi l'histoire.
L'histoire ?
Bah oui.
Waouh.
Non, non, bien sûr, pas l'histoire en détail, mais rien que le genre du film, peut-être.
D'accord.
Allez-y, premier extrait.
C'est bon, c'est bon.
Os homens, para mim, na minha opinião, são uns idiotas.
Eu acho que os homens estão assim um bocado básicos.
Não? São muito básicos, não?
Então, Bernardo, viemos namorar aqui para cima, é isso?
Isto não é o que parece.
Estás a ver o mesmo que eu?
A que beto!
Ali o meu amigo Francisco e eu estávamos a tentar adivinhar os vossos nomes.
Divertido!
Não, c'est português.
Ouais,
j'ai cru entendre la volontaire Carolina pendant que
on dirait une comédie romantique, un peu à la Love Actually, un truc dans le genre. Je regarde pas tes fiches, hein, rassure-toi.
Ouais, j'aurais dit la même chose, ouais.
Non, exactement. C'est une comédie romantique, c'est l'histoire qu'on connaît tous, d'une trentenaire qui ne trouve pas l'amour, qui a besoin de reconstruire sa vie après de nombreuses histoires troublées et qui a le soutien de tous ses meilleurs amis pour y arriver.
Et ça s'appelle comment ce film ?
Ça s'appelle Sayla.
Sayla ?
Ouais.
C'est
de Joachim Leitao.
Ah, bien sûr.
Et ça date de 2014.
Si on sait pas regarder pour la prochaine soirée, si on sait pas quoi regarder pour la prochaine soirée fille, on regarde
c'est
ça.
Ça. Exactement. Exactement. On peut pas oublier de mettre les sous-titres, mais ouais, pas de souci. Deuxième extrait.
Des ajungi tu acolo în Kensington Garden și este prin printre veverițele alea care vin după tine. Să vezi tu cum lumea asta de aici o să ți se pară așa de departe că este întreb dacă există cu adevărat.
Nu mai vorbi așa.
Ça, c'est pas une comédie romantique déjà.
Non.
Un drame ukrainien qui se passe dans une prison.
C'est un drame, oui.
Pologne, hiver.
Ukrainien, mais dans la Seconde Guerre mondiale, comme ça.
Non. C'est un drame moderne.
Mais c'est ukrainien ou pas ?
Non, c'est pas ukrainien.
J'aurais dit un polar, un ancien commissaire à la recherche de l'assassin de sa femme.
Non, pas vraiment, mais quelle nationalité, Ingrid ?
Biélo.
Non, mais vas-y, Emeline, parce que moi...
J'aurais dit biélorusse.
Non,
c'est roumain.
Ouais, c'est roumain, ça, exactement.
C'est vrai ?
Ouais, c'est roumain. C'est l'histoire, en fait, de Roméo, qui est un médecin dans une petite ville en Roumanie. Et en fait, toute sa vie, il a fait en sorte que de mettre de l'argent de côté, que sa fille travaille bien à l'école pour pouvoir l'envoyer à l'université en Angleterre. Et en fait, sa fille se fait agresser et elle réussit pas à avoir son bac.
C'est baccalauréat, du coup.
Ouais, exactement.
Ah, d'accord.
Et du coup, toute sa vie est remise en question parce que tous les rêves qu'il avait pour sa fille ne peuvent pas se réaliser. Mmh. Donc voilà.
Ça a l'air.
Ça s'appelle Baccalauréat, le film.
Et c'est de
Christian Mungiu.
Ouais. Ingrid, tu connaissais déjà ?
Bah, je connaissais deux noms, ouais, j'avais vu la bande-annonce, et Christian Mungiu, c'est un réalisateur roumain, un des plus connus, même si en Roumanie il ne fait pas beaucoup d'entrées, mais il est souvent à Cannes, on le voit souvent au Festival de Cannes, il a reçu des prix et tout ça.
Donc voilà, ouais. C'était un petit drame, ouais. Changer
j'aurais dû deviner, je suis désolée. Oh.
Mais non. Peut-être tu vas te rattraper sur le prochain extrait.
Allez.
A to jest ten sam typek, co pływał, jak przyszliśmy? Chłopak nie do zajechania. Może jak on jeszcze tak popływa do końca flachy, to może go do klubu wezmę.
Ale jak chcesz... Cœur s'emballe.
Stoi.
Dupa ci opada. Pijane dziecko bez nogi, wyciągnę się na dwa baseny.
Łapy przy głowie! Nie denerwuj mnie!
Jak ja bym mogła pływać, to bym był mistrzem
świata. No, alors, quelle nationalité?
Nie możesz sobie ufać. Nie możesz ufać swoim emocjom.
Kocham cię,
wiesz?
Kocham cię.
Ty jesteś następny.
Rozumiesz?
Exactement. C'est polonais.
Et d'accord. Et de quoi ça parle, Yann, à ton avis?
Je sais pas.
Aucune idée, Emeline? T'as réussi à capter quelques petits mots?
Pas du tout.
Faut dire qu'en studio, on a du mal à entendre vraiment les paroles exactement pour notre... Pour notre Ah oui, pardon, d'ailleurs, il faut que je passe là-dessus. Excusez-moi. Les aléas du direct. Non mais oui, mais du coup, qu'est-ce que c'est l'histoire, Claire?
Alors, c'est un biopic, cette fois-ci. C'est l'histoire vraie du triathlonien. Désolée, c'était un mot compliqué à dire.
Triathlète.
Ouais, mince, pardon. De Jerzy Gordski. Et en fait, ça retrace sa vie, comment il est passé de toxicomane à athlète accompli.
D'accord. Bien joué.
C'est un film qui date de 2017. Donc, vraiment... Et je ne sais pas prononcer le nom du réalisateur, si Yann veut bien le faire à ma place.
Bah, Lukasz Palkowski.
Ouais, ok. Et donc, voilà.
Yann, traducteur officiel de polonais.
Bah oui, il faut mettre son accent... faut bien l'utiliser, quoi.
Exactement.
Donc voilà. Maintenant, quatrième extrait.
Have you ever been on your own before?
No, never.
Your last relationship lasted how many years?
Petit piège. La langue utilisée n'est pas celle du.
No.
And the dog?
This is my brother. He was here a couple of years ago, but he didn't make it.
Ben vas-y.
Si je dis pas de conneries, je crois avoir reconnu un film qui traîne sur mon PC depuis des années parce que j'avais vu le trailer et qu'il avait l'air plutôt sympa. Je crois que c'est The Lobster.
Oh. Okay. Et la voix de Colin Farrell,
star de The Lobster.
En gros, je crois que c'est un truc un peu dystopique. C'est genre dans un futur. Genre si jamais t'es célibataire, en gros, faut absolument que tu rencontres quelqu'un dans un laps de temps assez court. Je crois que c'est 2-3 mois, un truc dans le genre. Et si jamais tu le fais pas, t'es transformé en animal. Et le personnage principal, lui, il veut être transformé en langoustine. Et par exemple, il traîne un chien. Et genre, le chien, c'est son frère.
C'est pas une langoustine,
un lobster, un homard. Oui, bah ça va, ça ressemble à un homard, une langoustine.
Vocabulaire. Non, ouais, c'est exactement ça l'histoire. Et en gros, il a un peu peur. Alors, pour échapper à ce destin terrible, il décide de rejoindre un groupe de résistants dans les bois. Et ce groupe de résistants s'appelle les solitaires. Mais c'est exactement ça.
Donc, je suis un peu déçu parce que quand tu m'avais dit que tu mettais un film pour moi, je pensais que tu allais mettre Free Fall, le film allemand.
Non, mais en fait,
je m'attendais à ça, moi
aussi. Oui, moi aussi.
Non, mais en fait, le problème avec Free Fall, si les auditeurs veulent savoir, c'est un film allemand.
Oui.
Et je comptais d'ailleurs mettre cette bande-annonce, mais sur les bandes-annonces, il n'y avait pas de paroles. Donc, on ne pouvait pas deviner.
D'accord.
C'était seulement des images.
Yann, est-ce que tu peux nous parler de Free Fall rapidement? Parce que moi, c'est un film que j'ai vraiment envie de voir. Et je pense
tu
ne
l'as
ça
pas
va...
vu?
Non, je ne l'ai pas vu. Alors, encore. Petite
dédicace à Amalia de la Maison de l'Europe pour qu'elle elle le voit. Parce qu'elle refuse de le voir. Parce qu'en fait, c'est un film allemand avec Max Rimmelt. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il joue dans Sense8 sur une série Netflix.
C'est Wolfgang
dans Sense8. C'est un acteur allemand que j'aime beaucoup, qu'on aime beaucoup. Et Free Fall, c'est une histoire d'amour entre deux policiers, une histoire un peu complexe en Allemagne. Et c'est un très joli film.
Ouais, super, ouais. On l'a regardé il n'y a pas si longtemps et c'est une super belle histoire. Mais voilà, dommage, il n'y avait pas de parole dans la bande-annonce, alors je n'ai pas pu l'utiliser.
Mais on le regardera quand même, pas de problème. Dernier extrait pour
et
le
ouais,
jeu.
Alors maintenant, là, c'est un bonus, parce que là, du coup, ça va complètement contredire ce que j'ai dit, parce que c'est juste un film qui a un potentiel de fou, je pense, mais là, il n'y a pas de parole non plus dans cette bande-annonce, mais je ne pouvais absolument pas passer à côté de ça. Donc, essayez de deviner au moins l'atmosphère du film, si vous pouvez.
Ok, on écoute ça.
Lucia. Adé.
Je dirais film d'horreur à la Alien ou The Thing.
Un petit peu.
Je crois qu'on entend une voiture qui dérape.
Ah oui, alors moi pour tout vous avouer, ce bruit m'a fait penser au train que je prends tous les matins pour venir à la méba.
Alors Claire, qu'est-ce que c'est?
C'est un film grec qui s'appelle L'attaque de la moussaka géante. Mais attendez, mais c'est génial! Mais c'est génial! Absolument qu'on regarde ce film. C'est-à-dire que suite à une téléportation ratée, un rayon extraterrestre touche accidentellement une part de moussaka. Très vite, elle se transforme en monstre géant. Ah non, j'ai attendu.
J'ai vu quelques extraits, c'est vraiment.
Ça peut arriver, c'est un risque, faut pas le.
C'est vraiment. C'est des scènes où t'as une moussaka géante qui se balade dans la rue.
Non, mais vraiment, genre plus grande qu'un immeuble.
Attends, mais c'est un film ou c'est un dessin animé?
C'est un film.
C'est un film.
Des effets spéciaux.
Et elle fait quoi cette moussaka?
Eh ben, elle absorbe les gens, je crois. Mais c'est. Alors, les sources sont en désaccord. Alors, soit ils datent de 99, soit de 2001, mais en tout cas, c'est un film. Grec, et je pense qu'il y a moyen de rigoler beaucoup.
En fait, c'est le Godzilla de la cuisine.
La comédie,
voilà, pas tous en même temps.
Bon appétit si vous êtes à table.
Oui, oui. C'est le Godzilla de la cuisine, en fait.
Ouais, sûrement, mais non, mais c'est super.
En tout cas, un fort potentiel,
ah,
en
oui,
effet.
Rien que oui, je pense là, je pense que tu nous as convaincu. Potentiel, ouais.
Très bien, et sans plus tarder, merci Claire pour ton jeu, tu nous as bien fait rigoler.
On a
plein
plaisir.
D'idées pour les ciné-débats de la MEBA, qu'on va bientôt organiser un jour peut-être. Et maintenant, je regarde Yann qui a son petit chapeau sur la tête. Bonjour Yann.
Oui, là je me prends littéralement pour un Peaky Blinders, puisque je sors actuellement de ma casquette une enveloppe, non pas des lames de rasoir, pour déterminer le sujet de l'émission de la semaine prochaine.
Oui, voilà, parce que juste pour faire bref, pour expliquer un petit peu, on a un nouveau concept d'émission qui commence à partir de la semaine prochaine et on choisit un thème et on a une semaine pour réfléchir à comment créer des chroniques et des reportages sur ce thème. Donc, on t'écoute. Voilà, donc
tout en restant connecté à l'Europe quand même, rassurez-vous.
On a demandé ma main innocente, j'espère juste piocher mon sujet.
Attention, hein. Deuxième roulement de tambour.
Ok, arrête le roulement de tambour. Je sais pas qui a mis ce sujet. Hein. Ligne.
Waouh. Eh ben, ligne, ce sera. Je ne sais pas.
Un bon courage à nous tous.
Et on se retrouve là.
Qui a mis ça?
Attends,
on va couper les micros tout de suite quand on étrangle quelqu'un.
Avec une ligne, donc. On se retrouve la semaine prochaine à 12h30 sur